écoutez RFI, une radio vraiment mondiale. Il est 17h à Jacques Bell en Haïti, 21h en temps universel et à Porto Novo au Bénin, 22h à Ponto Combo en France. Et le journal est présenté par Christophe Paget. Bonsoir Christophe.
Merci Claude Issoir. Bonsoir à toutes et à tous. Après son coup de fil à Volodymyr Zelensky, Donald Trump en est sûr. Nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Volodymyr Zelensky affirme que son pays est prêt à cesser les frappes non seulement sur les infrastructures énergétiques russes, mais aussi sur les infrastructures civiles. Arrestation en Turquie du maire d'Istanbul et principal opposant du président Erdogan, alors que son parti se préparait à le choisir comme candidat à la prochaine présidentielle. À suivre le reportage d'Anand Lauer. Et puis en France, procès des geôliers du groupe État islamique. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise ce soir contre Mehdine Mouche. Selon la Maison Blanche, la conversation téléphonique aura duré une heure. Le président américain a échangé ce mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La veille, c'était avec le président russe Vladimir Poutine. Washington et Moscou s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu partiel seulement sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Volodymyr Zelensky affirme, lui, que son pays est prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques russes, mais aussi civiles. Pour Donald Trump, ce dernier coup de fil est une victoire diplomatique. Et comme d'habitude, il n'a pas peur des superlatifs. Édouard Maille.
Une conversation fantastique, selon les mots du communiqué de la Maison Blanche, et le président américain a posté sur son réseau social que nous étions sur la bonne voie. Selon la Maison Blanche, le président ukrainien a remercié les États-Unis pour leur soutien et d'avoir entamé ces négociations pour un cessez-le-feu. Pourtant, l'Ukraine avait accepté la semaine dernière l'idée d'un cessez-le-feu total, mis en avant par Washington, mais qui n'était pas au goût de Vladimir Poutine, qui semble avoir dicté ses conditions avec cet accord de cessez-le-feu partiel. Mais Donald Trump a brandi l'échange avec Volodymyr Zelensky comme une victoire, une première étape selon la Maison Blanche pour ensuite élargir le cessez-le-feu avec l'objectif d'un accord de paix. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à mettre fin au conflit, une fin qui, selon les mots de la Maison Blanche, est possible sous le leadership de Donald Trump. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
À Gaza, le Hamas se dit toujours ouvert aux négociations, alors que les bombardements israéliens qui ont commencé hier ont fait, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien, au moins 413 morts. Mais Israël annonce une intensification de ses opérations et parle d'un dernier avertissement aux habitants de la bande de Gaza. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas complètement sorti de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent. Menace du ministre de la Défense Israël Katz. Dans l'après-midi, l'armée israélienne avait déjà annoncé avoir lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de la bande de Gaza. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une enquête après la mort d'un des employés des Nations Unies dans une frappe dont Israël a démenti être responsable. 5 autres employés ont été gravement blessés. Notre correspondante à Ramallah, Amira Swilem, a réussi à joindre à Gaza un témoin des violences de ce mercredi.
Iyad, travailleur humanitaire, faisait une distribution alimentaire à proximité de l'hôpital El-Aqsa de Deir el-Balah quand un mouvement de panique a envahi le quartier. C'est dans cet établissement hospitalier que l'équipe de l'ONU a été transférée. Aussitôt, il ressent le besoin de témoigner.
On a entendu le son de l'explosion quand elle a eu lieu. C'est la panique à Deir el-Balah. Les scènes que l'on voit sont vraiment dures à soutenir. Il y a un corps, un martyr de l'ONU et 5 blessés graves. Un d'eux est transféré à l'hôpital européen de Ran Younes dans le sud afin d'y être opéré en urgence. Il risque d'être amputé de la jambe.
Alors que les regards, dont ceux de l'ONU, semblent se tourner vers Israël, Iyad s'inquiète. Si des équipes étrangères censées être un peu plus épargnées que les Gazaouis sont ciblées, cela augure mal de la suite pour eux, selon lui.
C'est une catastrophe ici, toujours. La situation va empirer si les frappes israéliennes continuent. N'oublions pas que cela fait plus de 17 jours que l'aide humanitaire et la nourriture ne peuvent plus entrer dans Gaza.
L'armée israélienne a aussitôt démenti avoir frappé le bâtiment dans lequel les employés de l'ONU se trouvaient. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Et pour autant, Israël dit ce soir enquêter sur les circonstances de la mort de cet employé, présenté comme un employé bulgare, employé de l'ONU. 6 morts et 40 disparus, c'est le bilan provisoire du naufrage en Méditerranée d'un canot pneumatique qui transportait des migrants. Les migrants secourus sont actuellement à Lampedusa. Le naufrage se serait produit, selon les médias italiens, au large de l'île. Depuis le début de l'année, plus de 8700 migrants ont débarqué en Italie. C'est un peu plus que l'an dernier à la même époque. Jour de manifestation en Turquie. Dans les grandes villes du pays, des foules se rassemblent devant les bureaux du CHP, le Parti Républicain du Peuple, qui est le principal parti d'opposition turque. Car ce matin, à l'aube, le maire d'Istanbul et élu de ce parti, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté. Celui qui est le plus grand rival du président, Recep Tayyip Erdogan, est accusé à la fois de lien avec le terrorisme et de malversation financière dans sa gestion municipale. Une manœuvre politique, selon les nombreux soutiens du maire. Notre correspondante, Anand Lauer, s'est rendue au siège du CHP dans la capitale Ankara, devant lequel un millier de personnes s'étaient rassemblées.
De la colère sur les visages, des slogans combatifs, tous ensemble contre le fascisme, les partisans du CHP sont venus dire qu'ils n'acceptent pas l'arrestation du maire d'Istanbul et plus généralement ce qu'est devenu leur pays, comme Gülten, une retraitée à l'écharpe rouge.
S'il n'y a pas de démocratie, à quoi ça sert d'organiser des élections? Si c'est pour arrêter, pour destituer ceux que nous avons élus, on en a ras-le-bol. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
Dans cette foule, personne ne semble abattu. Ils disent tous qu'ils gardent espoir, que le régime actuel, cette répression toujours plus forte, ne sont pas tenables. Nihat, un fonctionnaire.
On résistera coûte que coûte. Ce parti a bien résisté au coup d'état militaire de 1980. Là, c'est pareil, ils ne nous feront pas plier.
Et pourtant, plus qu'avant, certains refusent de parler au micro ou mettent en garde ce qu'ils font. Metin est déçu de l'affluence devant le siège du CHP.
On aurait dû être des dizaines de milliers. Le pouvoir a réussi à instiller la peur. Alors que tout ce dont il est question, c'est de défendre notre droit et notre voix.
Malgré l'incertitude sur le sort d'Ekrem İmamoğlu, le CHP assure maintenir la primaire qui doit avoir lieu dimanche pour le désigner comme son candidat à la présidentielle. Anand Lauer, Ankara, RFI.
La Commission européenne s'est engagée ce mercredi pour soutenir la filière de l'acier en Europe. En réponse au droit de douane de 25% mis en place il y a une semaine par Donald Trump pour les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Des mesures détaillées doivent être dévoilées plus tard, mais on sait d'ores et déjà que la Commission veut réduire les importations d'acier de 15% avec un durcissement de quotas à partir du 1er avril. Objectif, protéger la filière de la concurrence chinoise, mais aussi donc de ces droits de douane imposés par les États-Unis. Pour Axel Egert, le directeur de l'Association européenne de l'acier, c'est un bon début.
Tous les changements qu'ils sont en train de faire pour le 1er avril sont bien sûr une amélioration, mais ils ne vont pas complètement changer la situation de notre secteur à la court terme. Aussi, par exemple, pour le inox, probablement il n'y a aucun changement pour le 1er avril. Et bien sûr, des mesures proposées pourraient nous aider partiellement, mais pas pour vraiment renforcer la situation dans laquelle nous en trouvons aujourd'hui. En total, le plan d'action est une très grande étape, mais il faut l'implémenter. Et là, on verra dans les prochains 12 mois comment, où on va arriver.
Axel Egert, joint par Altine Lazage, en France, à Paris. Au procès des geôliers du groupe État islamique, sans surprise, c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui a été requise ce mercredi soir contre Medine Mouche. L'accusation a parlé d'un véritable sociopathe dénué de toute empathie, méritant une peine qui protège définitivement la société. Medine Mouche est poursuivi avec 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014 et pour les actes de torture et de barbarie qu'il leur aurait infligés. Toujours en France, l'État double l'enveloppe pour les intercommunalités pour qu'elles puissent financer leurs projets de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. L'enveloppe qui provient du Fonds vert est donc portée à 200 millions d'euros pour 2025, suite à une demande très forte des sénateurs et des élus locaux, selon le ministère de la Transition écologique. Les intercommunalités de plus de 20 000 habitants sont tenues d'élaborer des plans pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et aussi améliorer la qualité de l'air. Un peu de sport, à Saint-Moritz, en Suisse, ce sont les mondiaux de ski acrobatique et de snowboard. Et ce mercredi, la Française Perrine Laffont, 26 ans, a décroché la médaille d'or pour le ski sur bosse. C'est son 6e titre mondial dans la discipline. Et puis c'est officiel, en 2027, le Tour de France partira d'Édimbourg en Écosse. Il passera aussi par l'Angleterre et le Pays de Galles. RFI, 22h10 à Paris.